Dans quelques instants, aux environs de 7h40, nous serons en compagnie d'Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, pour évoquer, bien entendu, la réforme des retraites. Il sera rejoint aux environs de 8h20 par Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques, co-auteur d'une tribune rassemblant des économistes ayant inspiré le candidat Emmanuel Macron et aujourd'hui inquiet par sa réforme des retraites. En attendant, il est 7h30 sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Son discours devant le Conseil économique, social et environnemental est très attendu. Le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter ce midi l'architecture du projet de réforme des retraites. On sait qu'il devrait fusionner les 42 régimes actuels en un système universel par points. Les syndicats attendent toujours des avancées pour sortir du mouvement social commencé jeudi dernier, notamment la prise en compte de la pénibilité importante aux yeux de la CFDT comme de la CGT, alors que le gouvernement, au début du quinquennat, avait plutôt simplifié les critères pour les employeurs, Anne-Laure Jumet.
La pénibilité, ce n'est pas un mot qu'Emmanuel Macron affectionne. Il le disait encore le 3 octobre dernier à Rodez, en lançant la consultation sur la réforme des retraites.
Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible.
Dans le même temps, ajoutait le président, il est normal qu'il y ait des bonus pour prendre sa retraite plus tôt dans certaines situations jugées pénibles. Dernièrement, le gouvernement a cité l'exemple de la reconnaissance du travail de nuit pour les infirmières à l'hôpital public. Mais la CFDT appelle à aller beaucoup plus loin. Frédéric Sève, en charge des retraites au sein de la centrale de Laurent Berger.
Ce que vous avez sorti par la porte revient par la fenêtre à un moment où vous n'avez peut-être pas prévu. Mais on ne peut pas avoir un débat serein, une refondation complète et une refondation consensuelle de la retraite si on n'a pas une réponse sur qu'est-ce qu'on fait pour les salariés qui ont des travaux beaucoup plus pénibles que les autres.
Alors rappelons qu'au début du quinquennat, le gouvernement a amoindri la prise en compte des métiers pénibles, retirant 4 critères du compte pénibilité, comme les charges lourdes et les agents chimiques dangereux, des facteurs jugés trop difficiles à prendre en compte par les employeurs. Attention donc au retour d'une nouvelle usine à gaz, prévient déjà François Asselin, président de la CPME.
Il ne faudrait pas qu'on reconnaisse l'exercice que nous avons connu il y a quelques années avec des fiches pénibilité qui étaient insupportables, qui ne correspondaient absolument pas à l'activité sur le terrain dans les entreprises, surtout dans les petites et moyennes entreprises. Ne ramenons pas à l'individualité de l'entreprise cette question de pénibilité, ça concerne plutôt des métiers.
L'avertissement est donc lancé, le Premier ministre devra parler pénibilité sans rallumer la mèche du côté des organisations patronales qui soutiennent aujourd'hui plutôt cette réforme des retraites.
Deux nouvelles journées de mobilisation sont déjà annoncées, demain et mardi. Hier, la CGT a revendiqué la présence de 885 000 manifestants partout en France. C'est moitié moins que son estimation de jeudi dernier. À Paris, où 31 000 personnes ont défilé selon le ministère de l'Intérieur, 180 000 d'après les syndicats, il y avait dans le cortège Gaël Postier déterminé.
La vapeur qu'il y a eu le 5 décembre, elle est énorme. C'est historique. Ce qu'on a connu depuis 2016, les étudiants qui sont mobilisés, les places qui étaient occupées avec les nuits debout, les gilets jaunes, les salariés cheminots, le privé. Qu'on soit en grève majoritaire ou minoritaire, nous participerons en tant que postiers et postières à l'effort, à la bagarre, à ce bras de fer, en commun avec les cheminots, la RATP et les enseignants. On n'a jamais vu ça, même en 95.
Gaël, propos recueillis par Anne-Laure Chouin. Ce sera encore compliqué aujourd'hui de se déplacer. La SNCF prévoit un TGV sur 4 en circulation, un Transilien sur 5. 10 lignes de métro sont toujours fermées à Paris. Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Voilà les deux chefs d'accusation retenus hier par les démocrates américains et qui visent Donald Trump. Le président des États-Unis est soupçonné d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour qu'il enquête sur le fils de son rival politique, Joe Biden. Il risque un procès en destitution. Pendant un meeting hier soir en Pennsylvanie, 11 mois avant la présidentielle, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a réagi, Grégory Phillips.
À Hershey, Pennsylvanie, devant 10 000 de ses supporters, chauffés à blanc et casquettes rouges, Make America Great Again sur la tête, Donald Trump contre-attaque. Cette procédure d'impeachment lancée par les démocrates, c'est une blague, une arnaque, dit le président américain.
Vous avez vu aujourd'hui ces chefs d'accusation, mais c'est la procédure d'impeachment la plus légère de toute l'histoire du pays. C'est un impeachment light.
Malgré tout, Trump risque de devenir la semaine prochaine le troisième président des États-Unis à être ainsi mis en accusation. Le premier, c'était Andrew Johnson au 19e siècle, puis Bill Clinton en 1998. Tous les deux sous le coup d'une procédure d'impeachment, avait ensuite été blanchi lors du procès au Sénat. Donald Trump sait d'ailleurs qu'avec des sénateurs majoritairement républicains, un scénario identique se profile pour lui, mais il dramatise, citant même le père fondateur, George Washington.
Vous savez le code qu'il donnait à ses soldats ? La victoire ou la mort ?
Victory or death, Pennsylvania, thank you.
Au Sénat, le procès en destitution pourrait avoir lieu dès janvier, mais Donald Trump veut croire que cet épisode aura un effet inverse de celui recherché par les démocrates, qu'il galvanisera sa base électorale.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. Une perturbation pluvieuse va encore traverser une grande partie de la France vers l'est et le sud. Aujourd'hui, vous aurez quelques éclaircies dans l'ouest. Les températures maximales seront de 3 degrés à Strasbourg, 8 à Lille, 9 à Paris, 13 à Marseille et 11 degrés à Bordeaux, Guillaume.
Merci Margot Delpierre, 7h36 sur France Culture. La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Une attaque suicide a visité tôt ce matin une base militaire américaine à Bagram, en Afghanistan. C'est un rappel du bourbier dans lequel les États-Unis sont engagés dans ce pays depuis 18 ans.
Et oui, la guerre en Afghanistan, c'est tout simplement le plus long conflit armé dans l'histoire de l'armée américaine, lancé juste après les attentats du 11 septembre 2001 et sur laquelle le Washington Post a jeté une lumière particulièrement crue en ce début de semaine.
A massive new trove of confidential documents obtained by the Washington Post reveals US officials systematically lied to the American public about the Afghan war.
Virtually les Afghanistan Papers, tels que les décrit ici CNN, ce sont 2000 pages de documents officiels que le Washington Post a réussi, après des années de batailles judiciaires, à faire déclassifier. On y trouve principalement les dépositions de centaines d'officiers militaires qui, tous, à leur niveau, reconnaissent l'ampleur du fiasco américain en Afghanistan et reconnaissent aussi comment ils ont menti pendant près de 20 ans pour masquer ce fiasco. Cette guerre, elle a fait des dizaines de milliers de morts côté afghan, elle a coûté la vie à 2300 soldats US depuis 2001, mais elle est surtout, selon le titre choisi par le quotidien, une guerre menée contre l'idée même de vérité. On apprend dans les Afghanistan Papers que, depuis les premières années du conflit, l'état-major américain avait des doutes en interne sur le bien fondé de l'intervention, sur ses chances de succès. Très vite est arrivée la conviction que l'Amérique ne pouvait gagner cette guerre, mais elle a été consciencieusement cachée à la population et aux médias, abreuvée pendant des années de statistiques manipulées pour faire apparaître des succès militaires là où il n'y avait que des échecs.
Ce fiasco afghan que révèle donc le Washington Post, il est profond et multidimensionnel.
Oui, tout comme l'enquête qui fera date du journal dont le nom Afghanistan Papers est une référence assumée aux Pentagon Papers du New York Times en 1971 qui avait révélé aux yeux des Américains cette fois l'ampleur du bourbier vietnamien. Le premier échec en Afghanistan, c'est celui de la vérité que les trois présidents successifs, Bush Jr., Obama et Trump, n'ont jamais eu le courage d'assumer face à leur nation. La vérité, c'est que très vite après 2001, les États-Unis n'avaient plus de stratégie, sinon celle de couvrir leur échec en prolongeant cet échec et en l'aggravant encore. Le second fiasco, c'est celui du grand projet affiché de bâtir en Afghanistan les fondements d'une nation nouvelle, moderne, démocratique et apaisée. Les États-Unis y ont englouti 133 milliards de dollars pour un résultat quasi nul, ou même pire, c'est le troisième volet des papers du Washington Post, pour un résultat totalement contre-productif qui a noyé les élites locales sous des sommes d'argent considérables, a alimenté la corruption des chefs de guerre, des groupes criminels et autres cartels de l'opium afghan.
Voilà donc l'envers de la guerre révélée au grand jour par ceux-là même qui l'ont menée et continuent d'ailleurs de la mener, Camille.
Ce sont des mensonges qui nous ont fait rester en Afghanistan et nous y enliser, résume Ross Douta dans le New York Times. Il note surtout, avec deux jours de recul sur ces révélations, à quel point celles-ci suscitent bien peu d'émotion dans la population américaine. Contrairement aux Pentagon Papers qui en 1971 avaient précipité le retrait complet des troupes du Vietnam, en 2019, le constat de la mystification de la guerre faite à la vérité n'émeut plus apparemment les foules qui, il faut bien le dire, sont ces derniers jours aimantées vers le grand théâtre de la procédure en destitution de Donald Trump. Les Américains ont appris à vivre avec des guerres sans fin, se lamente Ross Douta. Sans doute ont-ils aussi perdu leurs illusions sur l'idée même de vérité en politique et en particulier en temps de guerre.
Peut-on juger une icône ? La question est posée depuis hier à la Cour internationale de justice.
Et en l'occurrence, l'icône dont on parle là a depuis longtemps perdu de son lustre la birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, ancienne figure réprimée de la défense des droits humains face à la junte militaire dans son pays. Et depuis hier, face à la CIJ, la Cour internationale de justice, donc à la haie, et elle y est pour défendre les atrocités commises par ce même régime qu'elle a si longtemps combattu. Cette contradiction, elle est relevée par de nombreux journaux asiatiques, à commencer par le Straits Times de Singapour. On y lit le récit de la première des trois journées d'audience au cours desquelles la de facto première ministre birmane doit répondre aux accusations de génocide perpétrées contre la minorité musulmane Rohingya. La plainte a été déposée devant la Cour internationale par la Gambie, petit pays africain à forte majorité musulmane, au nom des 57 États membres de l'Organisation de coopération islamique. Hier, face à ses accusateurs et face aux 16 juges, Aung San Suu Kyi n'a pas pris la parole, elle doit le faire aujourd'hui, mais The Guardian retient à quel point elle s'est murée derrière une façade d'impassibilité, notamment au moment où le ministre de la Justice gambien, Aboubakar Tambadou, a exhorté la Birmane à mettre fin d'urgence au génocide.
Every day of inaction means that more people are being killed, more women are being ravaged, and more children are being burnt alive.
Chaque jour d'inaction signifie que plus de personnes sont tuées, plus de femmes sont ravagées, plus d'enfants sont brûlés vifs pour un seul crime, d'être nés d'une autre race, d'une autre religion que celle de ceux qui les violent et qui les tuent. Ces mots, repris par Al Jazeera, n'ont suscité hier aucune réaction visible sur le visage fermé de la dame de Rangoon, impassible également pendant que l'accusation gambienne citait des rapports d'experts de l'ONU détaillant les exactions dont sont victimes les Rohingyas dans leur région de Rakhine depuis l'été 2017. Aung San Suu Kyi va donc prendre la parole aujourd'hui pour défendre son pays et se défendre elle-même. Tant la question, nous dit The Guardian, est de savoir si elle était au courant de l'ampleur de ses crimes, si elle les a couverts ou a tenté de s'y opposer. Ce qui est sûr à croire la BBC, c'est que la dirigeante bénéficie toujours chez elle d'un soutien populaire très fort, nourri par un déni farouche. S'il y avait vraiment un génocide, alors les Rohingyas n'auraient tout simplement pas pu fuir. Voilà ce qu'explique très calmement à la BBC une supporter de celle qu'elle surnomme Maman Sou, dans une manifestation qui était organisée hier dans la ville birmane de Yangon.
Merci Camille Magnard, il est 7h42 sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Au lendemain de la journée de mobilisation du 10 décembre et après de longs mois d'arbitrage, le gouvernement s'apprête aujourd'hui à lever le voile sur sa réforme des retraites. Assiste-t-on à un moment de vérité dans le conflit social ? Le gouvernement parviendra-t-il à calmer les inquiétudes ou va-t-il au contraire raviver les colères ? Pour en parler, j'accueille Yves Verrier. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière et vous avez les honneurs du Canard Enchaîné qui cite des propos que vous avez tenu, vous avez dit aux Parisiens, je ne négocierai pas la mise en œuvre de ce que je qualifie de monstre. Alors c'est un monstre, la réforme des retraites ?
Oui, en réalité, à ce moment-là, l'image qui me venait, c'était celle de Frankenstein. J'ai dit que ce projet de régime unique par points, c'était un peu le Frankenstein des retraites. La créature échappe à ses créateurs parce que, à l'évidence, on nous a dit, par exemple, que c'était un engagement de campagne pour justifier le fait que ce projet était légitime, et porté par le gouvernement donc depuis sa mise en place. C'est-à-dire que ça fait plus de 3 ans maintenant que le gouvernement porte ce projet, qu'il a mis en place ce qu'il appelle des concertations qui ont duré plus de 2 ans et il doit s'apercevoir aujourd'hui que pour autant il n'est toujours pas parvenu ni à convaincre concrètement du bien fondé de l'avantage que produirait ce projet par rapport à la situation actuelle. Et il nous disait encore, le Premier ministre, vendredi dernier, qu'il y aura sans doute encore besoin d'expliquer. Donc, moi j'ai aussi...
Vous comprenez ce calendrier, ces atermoiements, ou en tout cas ces difficultés d'accoucher enfin d'une réforme ?
Mais justement, j'ai le sentiment que le gouvernement ne maîtrise pas bien son sujet. On nous l'a vendu avec des formules qui sonnent plutôt agréablement à l'oreille. Système universel. Bon, ben évidemment, tout le monde est intéressé par ce qui est universel.
On vous l'a vendu quand vous avez...
Dès le départ. C'est la présentation
des négociations auxquelles vous avez participé.
Mais depuis, on a les mêmes éléments de langage. Système universel, un euro cotisé donnera les mêmes droits, ce sera plus juste et ce sera plus simple.
Et alors ça, c'est bien ou c'est mal pour vous ?
Mais si on s'arrête là, ce serait plutôt sympathique. Le problème, c'est que dès qu'on rentre dans la mécanique, c'est là que je vous dis que le monstre échappe à ses créateurs, parce que dès qu'on entre dans la mécanique, on s'aperçoit en réalité que le gouvernement a été obligé, il a qualifié par exemple de fake news, les simulations qui ont été faites ici ou là et qui démontraient qu'on risquait d'y perdre sérieusement en termes de niveau de pension ou dans d'autres situations. Et à chaque fois, le gouvernement apporte des réponses, est obligé d'apporter des réponses. L'image que j'ai aussi, c'est une espèce de système qui fuit de toutes parts. Chaque jour, une fuite se dévoile, le gouvernement la colmate. Donc, quand un système fuit de toutes parts, on le laisse tomber et on revient au point de départ et nous avons beaucoup de propositions, nous des revendications très précises qui répondent à des nombreuses situations qui ont été évoquées dans le cadre de ce projet, qui s'appuient sur le système actuel dont nous pensons qu'il reste moderne, efficace et solidaire.
Les fuites que vous évoquez sont des pensions qui diminueraient fortement si l'on en croit ceux qui font des simulations, parce que le gouvernement ne valide pas aujourd'hui ces simulations et considère même qu'elles ne peuvent pas avoir lieu puisque les détails n'existent pas. Si on rentre dans la mécanique, qu'est-ce qui vous paraît finalement critiquable dans ce système si vous considérez que le système dit universel est un bon système, Yves Verrier ?
Tout d'abord, sur les simulations, le gouvernement les critique en disant qu'on ne connaît pas les paramètres. Mais dans ce cas-là, il faut renvoyer au rapport du haut-commissaire qui faisait lui-même des simulations. C'est vrai qu'il avait triché un peu sur quelques paramètres pour essayer de valoriser son projet par rapport à un système dont il allongeait la durée de cotisation pour montrer qu'on y gagnerait. Mais sauf que, évidemment, si on rend plus difficile le système actuel, n'importe quel autre système pourrait apparaître meilleur. Qu'est-ce que je reproche à ce système ? Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de simulations pour comprendre. Aujourd'hui, votre retraite dans le régime de base des salariés, celui de la sécurité sociale, 18 millions de salariés actifs. On nous parle beaucoup des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, les trois principaux, électriciens, gaziers, cheminots et RATP, c'est 325 000 actifs. Donc le régime de base de la sécurité sociale, les 18 millions d'actifs, aujourd'hui, vous constituez vos droits à partir de trimestres que vous validez dès que vous avez travaillé au minimum un mois, vous validez un trimestre. Et lorsque vous avez votre durée de cotisation et que vous êtes en âge de pouvoir liquider votre retraite, 62 ans aujourd'hui, votre retraite est calculée sur la base des 25 meilleures années. Donc on prend votre salaire moyen sur les 25 meilleures années de votre activité, de votre vie active, sur les 42 ans de cotisation qu'il vous aura fallu valider. Demain, vous devrez acheter des points dès votre entrée dans la vie active et à quel moment vous entrerez vraiment dans la vie active avec un boulot à durée pérenne et à temps plein, c'est déjà la première difficulté. Vous aurez très souvent, c'était tout l'enjeu des négociations sur l'assurance chômage, malheureusement des embauches en contrat court et en contrat très court. Donc acheter des points dans ces conditions-là, ça va être quand même compliqué. Deuxièmement, très souvent, ceux du temps partiel dans un premier temps, ou des stages pour les jeunes, qui ne valident rien en termes de salaire, donc ne vous donnent pas le moyen d'acheter des points, qui ne valident d'ailleurs pas aujourd'hui de cotisation pour la retraite, de trimestre. Donc nous, on a une revendication là-dessus. Quand vous êtes femme, vous êtes souvent plus souvent confiné à des petits salaires. Donc vous voyez bien, quand vous serez senior à 53, 54, 55 ans, que vous n'avez plus d'emploi et que vous avez du mal à retrouver un emploi, ce qui est malheureusement une situation majoritaire pour les seniors quand ils se retrouvent au chômage, bien vous aurez bien du mal à vous acheter des points. En clair, vous allez tout long de votre vie active avoir beaucoup de mal à vous constituer ce capital de points. Et le moment venu à 62 ans, quand vous pourrez transformer ce capital de points chèrement et durement acquis en retraite, vous serez dépendant de la valeur de service du point, c'est-à-dire ce que vaudra votre point quand vous le transformez en retraite. Et cette valeur de service du point, c'est tout l'enjeu de ce que moi j'appelle un régime unique par points. Elle sera définie en dernier ressort par le cadrage financier sous tutelle de l'État. Donc vous avez bien compris, en réalité, ce ne sera pas plus simple, ce sera pas plus juste, ce sera sûrement plus compliqué et incertain.
Bon, mais vous avez un problème, y verriez, pas seulement en force ouvrière, d'ailleurs l'ensemble des Français, le gouvernement estime que les retraites pèsent aujourd'hui pratiquement pour le quart du déficit public, une somme qui est en augmentation rapide du fait du vieillissement de la population. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il faut une réforme profonde des retraites ?
Alors, là aussi, il faut faire très attention. Vous savez, on est dans une société de la communication à tous azimuts. Les éléments de langage sont maintenant très utilisés professionnellement. Vous me dites déficit. On parle souvent de déficit en termes de dépenses. On a plus de dépenses que de recettes. Les retraites représentent, vous me dites, un quart du déficit public. Parce qu'on parle des retraites en termes de dépenses. Mais ça n'est pas une dépense. Ce sont les prestations de retraite. Ce sont des cotisations des salariés qui sont investies immédiatement pour payer les prestations de retraite des salariés à la retraite. Et tout ça, ça ne part pas dans un bas de laine. C'est pas une dépense à fond perdu. C'est immédiatement réinjecté dans l'économie. Les retraités, comme tout un chacun, consomment au quotidien. Ils se nourrissent, ils se logent, ils se déplacent. Quand ils sont en forme, ils font peut-être un peu plus de tourisme qu'ils n'ont plus à le faire s'ils ont suffisamment de pension. Donc, ils font marcher une activité touristique. Quand ils ne sont plus trop en forme, il crée des emplois, il aide à la personne.
Donc il ne faut pas toucher à ce système-là parce qu'il crée du déficit. Alors certes, on peut avoir une optique keynésienne, ce qui semble être la vôtre, et considérer que tout cela sert la consommation. Pas complètement d'ailleurs, parce que les retraités ont le droit aussi d'épargner. Dans ces conditions, vous ne voudriez pas modifier ce système ?
Le problème, encore une fois, parce que c'est la question de l'espérance de vie, de l'équilibre entre actifs cotisants et nombre de retraités et durée de la retraite aujourd'hui, qui est une réalité. On peut pas balayer ça d'un revers de main, bien évidemment, mais il faut mettre tout dans la balance. Aujourd'hui, on a encore 5 500 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en obligation de rechercher un emploi. On n'en indemnise que moitié au passage hein, parmi ceux-là. C'est-à-dire que moitié d'entre eux, aujourd'hui ne valident pas de cotisation retraite et demain n'achèteront pas de points de retraite. Hein. Ce ne sera pas mieux avec le système par points de ce point de vue. Il y a des choses à améliorer, y compris dans le système aujourd'hui, mais le système par points n'améliorera rien en soi de ce point de vue. Donc on a 5 500 000 demandeurs d'emploi. On a un salarié senior sur deux qui, le moment venu, n'est plus en activité quand il liquide sa retraite. On a beaucoup de précarité. C'est le Premier ministre qui, dans son discours de politique générale au mois de juin, disait devant l'Assemblée nationale « Nous n'en avons pas fini avec le chômage de masse et la précarité ». C'est cela qu'il faut d'abord résoudre. Il ne faut pas adapter le système de retraite à une société de chômage massif et de précarité devant lesquels les gouvernements auraient définitivement abdiqué, considérant qu'on n'arrivera pas à véritablement résoudre ce problème-là sur le plan économique. C'est à cela qu'il faut s'attaquer.
Yves Verrier, vous avez déclaré lundi dernier sur l'antenne d'RTL, demain, l'enjeu pour les manifestations d'hier, donc, c'est d'être plus fort que nous n'étions jeudi dernier. La mobilisation était en baisse. C'est un désaveu pour les syndicats.
Ce n'est pas un désaveu. Nous aurions souhaité être au moins aussi nombreux dans les manifestations, au moins aussi nombreux dans les appels à la grève. Nous avons fait très fort le 5 décembre. Hein. Tout le monde l'a remarqué, y compris par rapport à des mouvements précédents, notamment sur les questions de retraite ou de sécurité sociale en 95. Le 5 décembre était une espèce de record en termes de participation à la grève et de participation aux manifestations. Donc nous avions marqué un grand coup. C'était important parce qu'il fallait montrer justement que ce n'était pas tel ou tel régime spécial, que c'était bien l'ensemble des salariés qui avaient compris et qui soutenaient la nécessité de faire comprendre au gouvernement qu'il nous faut être entendu, qu'il faut qu'il revienne à la raison, qu'on revienne autour de la table de négociation sans préalable. Donc ce 5 décembre était très fort, évidemment. Quand vous êtes syndicaliste, vous entraînez, vous avez envie que ça soit au même niveau. C'est plus compliqué pour tout le monde. On a préparé depuis un mois le 5 décembre. Là, en 2-3 jours, il fallait le réaliser dans une situation où il y a la grève qui empêche et met en difficulté les grévistes, comme les usagers des services ou des secteurs qui sont en grève, bien évidemment. Donc, les conditions de réussite de la mobilisation sont plus difficiles. Cela étant, vous savez, si on avait eu le ministère de l'Intérieur donne près de 400 000 hier partout en France, si on les avait eu le 5 décembre, nous aurions déjà considéré que c'était une mobilisation importante et tous les commentateurs l'auraient sans doute considéré comme
donc,
ça.
Donc, vous êtes satisfait.
Donc, hier encore, c'était important, et il y a des mouvements de grève, des débrayages, y compris dans le secteur privé.
Imaginez que les contours de la réforme annoncée par Édouard Philippe en fin de matinée ne vous satisfassent pas, ce qui semble être aujourd'hui le discours dominant chez les syndicats. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que l'effritement de la mobilisation hier ne laisse pas augurer d'une difficulté pour vous, les syndicats, de continuer à mobiliser contre cette réforme?
Bien, on va voir cet après-midi. Le gouvernement semble, vendredi dernier, le Premier ministre est intervenu tout de suite. Donc je pense qu'ils ont pris la mesure du mécontentement, de la mobilisation. Maintenant, il semble vouloir afficher qu'il veut tenir sur son projet de système universel par
Quand
point.
Quand il dit qu'il n'y aura pas d'annonce magique, c'est un peu le signal qu'il vous envoie. Hein,
oui, mais moi, en la matière, je sais pas la magie, j'attends. Je pense que le gouvernement, cet après-midi, va sans doute faire un certain nombre d'annonces, je ne sais pas si c'est de concessions ou sur les modalités de mise en œuvre pour tenir compte de ce mécontentement, etc.
Alors, il va y avoir, évidemment, dit-on, une transition longue pour les régimes spéciaux, un décalage pour la première génération concernée, et puis l'idée selon laquelle il y aurait une retraite minimale à 1000 euros pour les carrières complètes.
Oui, alors, là encore, il faut faire attention à ce dont on parle. Sur le décalage de la mise en œuvre du projet du gouvernement, évidemment, c'est le produit de la mobilisation. Le gouvernement cherche à répondre à ceux qui...
Ça vous satisfait, le décalage ?
Non, ça ne me satisfait pas, parce que le problème que j'ai, c'est le système. Je ne vais pas dire aux générations futures, on a sauvé notre peau, tant pis pour vous, vous vous débrouillerez, parce que nous avons la conviction. Vous savez, nous sommes sincèrement convaincus de la raison de nos analyses, du danger de ce Frankenstein des retraites dont je parle. Ça n'est pas une image, simplement. Dans les détails, plus nous...
Je crois en votre sincérité, Yves Verrier, mais le problème, c'est que vous avez fixé, vous, syndicat, un mur au gouvernement qui était celui du 5 décembre. Celui-ci, de manière implicite, vous en fixe un autre, qui est le mur du 20 décembre, la date, par exemple, du départ en vacances de nombreux Français pour les fêtes de Noël. Si à cette date-là, il n'y a pas eu de réforme convaincante, satisfaisante pour les syndicats, serez-vous en mesure de maintenir la mobilisation et de poursuivre la grève dans les transports?
Encore une fois, notre objectif n'est pas un objectif de durée. Nous ne fixons pas de mur, nous, du 5 décembre. Nous ne fixons pas de mur...
Vous n'avez pas fixé le mur du 5 décembre?
Non, ce n'est pas un mur. C'est une date qui avait été décidée par un certain nombre de secteurs, et parce qu'il fallait qu'on y aille tous ensemble, on a choisi la même date.
Mais c'est une date que vous n'avez pas complètement choisi au hasard, Yves Verrier.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pas un mur. Moi, mon objectif, c'est que si le gouvernement nous annonce qu'on revient à la table de négociation sans préalable, qu'on mette de côté cette mauvaise idée et qu'on regarde comment on peut faire en sorte, sur la base du système actuel, d'améliorer les choses encore, de les adapter à certaines circonstances aujourd'hui qui sont nouvelles sur l'emploi, notamment les situations des femmes qui aujourd'hui arrivent à la retraite, qui ne sont plus dans la même situation que les femmes auparavant, où c'était plutôt la retraite du mari, du ménage et la pension de réversion qui était la plus importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui arrivent avec la volonté de préserver leur autonomie financière. Et évidemment, les difficultés qu'elles ont rencontrées tout au long de leur vie active font qu'elles sont en difficulté de se constituer une retraite qui permette cette autonomie financière. Donc, il faut qu'on regarde comment on fait pour améliorer la solidarité en la matière aujourd'hui, qui existe d'ores et déjà dans le système actuel. Après, vous me parlez des 1000 euros. Les 1000 euros, j'ai dit, c'est un peu le Black Friday des retraites, ça.
Le Black Friday.
Mais oui, parce que 1000 euros, on ne sait pas exactement. Ben, vous savez, quand vous faites des soldes, vous dites 999,99 pour pas que ça fasse 1000.
D'accord.
Là, quand vous voulez montrer que vous donnez plus,
une somme psychologique.
Vous dites 1000. Voilà, ça sonne bien, c'est comme plus juste, plus universel, etc. Sauf que 1000 euros, ça signifie quoi? Ça n'est pas les 85% du SMIC, par exemple. On nous avait dit que ce serait le minimum contributif pour une durée de carrière complète. Au passage, dans un système par points, il n'y a pas de durée de cotisation, vous arrivez à l'âge où vous avez votre capital de points, vous êtes, puisqu'on nous avait dit vous serez plus libre, vous devriez être libre de pouvoir convertir vos points en retraite. Mais ça, c'est trop de liberté maintenant, puisqu'on nous dit non, il faudra un âge pivot et vous serez pénalisé de 10% de votre droit sur la base de votre capital de points si vous partez à 62 ans. Donc vous voyez, tout ça, il y a beaucoup d'éléments de langage.
Qu'est-ce que vous dites, que 1000 euros, c'est pardonnez-moi, je vous ai coupé, que 1000 euros, c'est insuffisant, ou bien qu'en réalité, très peu de gens auront la possibilité de toucher ce minimum, puisque par exemple, peu de gens vont cotiser la totalité de leur vie à ce fonds donc de capitalisation, de répartition des retraites.
Oui. Les 1000 euros, si c'est le minimum contributif, c'est un petit peu plus que ce à quoi vous avez droit aujourd'hui pour une carrière complète. Le minimum contributif de la Sécurité sociale plus la retraite complémentaire, on est à 950 euros, 960 euros, quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc c'est un peu plus. Donc si on nous disait aujourd'hui pour demain qu'on fait monter le minimum à 1000 euros, ce serait très bien. Mais je rappelle quand même qu'entre-temps, le SMIC a évolué et que l'engagement, c'était 85% du SMIC. Nous, nous demandons d'aller à 100% du SMIC. Mais 1000 euros, ça n'est même pas 85% du SMIC aujourd'hui.
On se retrouve dans quelques instants, Yves Verrier. Vous serez rejoint par l'économiste Antoine Bozio. Il est co-auteur d'une tribune témoignant d'un certain nombre d'inquiétudes de la part d'économistes qui ont soutenu Emmanuel Macron et qui ne se reconnaissent pas ou ne reconnaissent pas en tout cas leurs idées dans cette réforme des retraites. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil. Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le projet de réforme des retraites sera-t-il plus clair en fin de journée? Le Premier ministre doit en tout cas en donner les grands principes à midi tout à l'heure. Un discours attendu, vous l'entendrez, et dont on ne sait pas grand-chose ou presque. Les femmes ayant des enfants devraient notamment être privilégiées.
Dans ce journal, vous comprendrez aussi pourquoi le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a démissionné de certaines de ses fonctions hier.
À l'aube des élections législatives anticipées en Grande-Bretagne, nous irons à Londres. Vous entendrez les derniers arguments de campagne et les prévue demain jeudi.
Et puis nous nous questionnerons aussi sur le pacte vert pour l'Europe promis par la nouvelle présidente de la Commission européenne. Présentation attendue aujourd'hui.
Zoom enfin sur les feux de forêt en Australie. Incontrôlables pour beaucoup, ils entourent Sydney. Les habitants suffoquent. Il n'y aura pas d'annonce magique qui fasse cesser les manifestations. Édouard Philippe l'a reconnu hier devant les députés de la majorité. Le Premier ministre doit présenter ce midi les grandes lignes du projet de réforme des retraites. Et même si les rassemblements étaient hier un peu moins importants que jeudi dernier, avec 339 000 à 1 million de personnes selon les chiffres des autorités et des syndicats, Édouard Philippe sait tout de même que la mobilisation se poursuivra, que chacun écoutera ses mots, analysera son discours jusque dans les plus petites communes de France où les rassemblements pour l'instant sont peu visibles. Mais l'intérêt pour cette réforme des retraites est très important, Rosalie Lafarge.
Les grands cortèges de manifestants à Ollioul dans le Var, les 13 000 habitants les regardent un peu de loin.
C'est pris avec un certain fatalisme, si je puis dire. Voilà, ils attendent que ça se passe.
Mais le maire de droite, Robert Beneventi, partage tout de même une certaine impatience avec ses administrés.
On ne peut pas danser le tango là-dessus, c'est pas possible. Il faut dire voilà les dispositions que l'on propose. Puis ensuite, eh bien, nous verrons bien.
On attend de voir, c'est aussi un peu le sentiment qui domine à Guivelde dans le Nord.
Toute la population guivaldoise sera devant la télévision pour écouter le Premier ministre.
Jean Decolle est le maire sans étiquette de cette commune de 4000 habitants, jusqu'ici très peu touché par les perturbations.
Tant qu'on n'a pas la règle du jeu, on ne peut pas continuer à faire grève. Mais si les gens doivent faire, 300, 400, 500 euros, alors c'est plus la même chose.
C'est d'ailleurs bien ce qui inquiète les 250 habitants de la Bastide du Vert dans le Lot.
Clairement, c'est aujourd'hui le sujet de discussion.
Et une crainte ressort de ces discussions selon Philippe Canseil, le maire de gauche du village.
La crainte, c'est qu'une distance finisse par se créer entre des décisions qui sont ressenties davantage comme des visions politiques plus que des visions vis-à-vis des citoyens. Ça donne véritablement l'impression, en tout cas nous d'ici, que les décisions ne sont pas prises pour que les retraités vivent mieux, mais tout simplement dans un schéma politique.
Mais là aussi, on attend de voir, on attend d'entendre ce qu'a à dire le Premier ministre français et on promet de suivre sa déclaration à Paris de près, même si on est loin.
Une déclaration qui interviendra, je vous le disais, à midi tout à l'heure, avant une intervention télévisée ce soir sur le plateau de TF1. Lors de son discours, Édouard Philippe devrait évoquer les droits familiaux avec l'idée de rassurer les femmes, notamment. Une étude de l'Institut de la Protection sociale a montré qu'elle serait perdante dans le nouveau système Anne-Laure Jumet.
Le Premier ministre va devoir démontrer que sa réforme est plus distributive pour les femmes et qu'elle réduit même l'écart de pension avec les hommes. Pour cela, il va mettre en avant l'une des nouveautés de cette réforme par rapport au système actuel, une bonification de 5% par enfant et ce dès le premier enfant. Ces points pourront être partagés entre les parents et à défaut d'accord explicite, ils seront attribués à la mère. Le but, c'est de rééquilibrer le système en faveur des femmes alors que leur pension moyenne reste inférieure de 42% à celle des hommes. Dans le régime actuel, la majoration n'existe que pour les familles de 3 enfants et plus, un bonus de 10% par parent. Plus de 5,5 millions de retraités en bénéficient. Mais avec la réforme, les familles de 3 enfants seraient donc perdantes car elles ne bénéficieraient que d'une majoration de 15% à se partager. Une situation que le gouvernement pourrait décider de corriger. Ce qui est sur la table, c'est de préserver la situation des femmes ayant eu leurs 3 enfants sous l'actuel régime.
Anne-Laure Jumet, et j'ajoute qu'hier soir, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a indiqué que la valeur du point sera indexée sur les salaires et non sur l'inflation, comme c'est le cas dans le système actuel. Et par ailleurs, selon nos confrères de France Inter, ce matin, la réforme des retraites commencera à s'appliquer avec la génération 1975 en 2025. Elle concernerait donc ceux qui auront 50 ans au 1er janvier 2025. Précision attendue de la part du gouvernement ce midi. Côté mobilisation maintenant, une intersyndicale appelle déjà à 2 nouvelles journées nationales, demain et mardi prochain. Sachez que de fortes perturbations dans les transports se poursuivent aujourd'hui à la SNCF et à la RATP. Nous évoquions à l'instant Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites. Il est bousculé ces derniers jours à cause d'activités annexes à sa fonction, si bien qu'il vient de démissionner de 2 postes qu'il occupait, Stéphane Robert.
Jean-Paul Delevoye avait conservé un poste de président d'un cercle de réflexion sur l'éducation, Parallax, poste pour lequel il était rémunéré 5 300 € par mois et que selon l'article 23 de la Constitution, il n'avait peut-être pas le droit de cumuler avec sa fonction au gouvernement. Et puis, il avait aussi une fonction d'administrateur à l'Institut de la formation de la profession de l'assurance, fonction bénévole celle-là, mais qu'il avait omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et à propos de laquelle certains ont dénoncé un potentiel conflit d'intérêts. C'est notamment ce qu'a rappelé le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, hier à l'Assemblée nationale.
Monsieur Delevoye, vous n'êtes plus l'homme de la situation pour mener cette réforme des retraites parce qu'on ne vous fait pas confiance. Les gens savent au profit de quoi vous êtes.
Réponse de Jean-Paul Delevoye, il n'y a plus rien à lui reprocher car il a démissionné de ses activités annexes.
Tout mon parcours prouve mon souci de transparence et de respect des lois. Et à ce jour, compte tenu des suspicions que certains n'ont cessé d'alimenter, j'ai mis un terme à toutes mes activités et je suis au clair par rapport à cela.
Pas sûr que cette mise au clair suffise à éteindre les mises en cause. Déjà parce que l'association Anticor a décidé de saisir la justice. Ensuite, parce que Jean-Paul Delevoye ne compte pas que des amis autour de lui. Un responsable syndical expliquait récemment que c'est un enfumeur de première. Si tu ne veux rien apprendre et rien négocier, va voir Delevoye, expliquait-il. Autrement dit, il ne sert pas à grand-chose. Un ministre, quant à lui, considère qu'il n'a plus la main sur les retraites et en parle au passé. Delevoye était un peu trop technique, explique ce ministre. Or, pour les Français, il faut de la chair, il faut du sens. C'est ce que va tenter d'instiller le Premier ministre qui a repris le dossier. Jean-Paul Delevoye, lui, semble aujourd'hui quelque peu marginalisé.
Alors, qui pour sauver la réforme des retraites? Voici la question, voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss que nous retrouverons après ce journal. Soulignons aussi qu'en marge du discours d'Édouard Philippe tout à l'heure au Conseil économique, social et environnemental à Paris, des policiers mécontents seront présents devant le bâtiment. Eux aussi tiennent à leur régime spécial. Après une semaine au ralenti, ils organisent plusieurs blocages aujourd'hui à l'appel de 3 syndicats majoritaires chez les gardiens de la paix. Et dans l'ombre de cette mobilisation contre la réforme des retraites, les hospitaliers en grève veulent aussi maintenir la pression. Ils prévoient, eux, une nouvelle manifestation le 17 décembre prochain qui convergera ou pas avec le mouvement des retraites s'il perdure. Les internes ont rejoint le mouvement hier. Ils revendiquent déjà 60% de grévistes. Le procès en appel des époux Balkany débute aujourd'hui dans le volet fraude fiscale. Ils ont été condamnés en septembre dernier à 4 ans et 3 ans d'emprisonnement. Même procédure aujourd'hui, mais la forme sera différente, Florence Turm.
Le délit de fraude fiscale reste le même, pour lequel les époux Balkany ont été reconnus coupables et condamnés en première instance. En revanche, le procès se présente sous un jour différent. Isabelle Balkany, hospitalisée durant l'audience correctionnelle après une tentative de suicide, a depuis repris les rênes de la mairie de Levallois et devrait donc comparaître devant la cour. Elle, libre, met son époux dans le box des prévenus, assisté d'un nouvel avocat, Romain Dieudonné, qui déplore la situation après le rejet lundi de sa dernière demande de mise en liberté.
Monsieur Balkany va donc comparaître être détenu devant la cour, ce qui est totalement inhabituel et véritablement insolite dans un dossier de cette nature. Sur un plan de principe, ça change beaucoup de choses parce qu'il comparaîtra dans le box. Et encore une fois, dans un dossier de cette nature à caractère fiscal, il est tout à fait inhabituel devant la chambre devant laquelle on va plaider, on va comparaître, que le prévenu comparaisse détenu. C'est inhabituel.
Un nouveau procès bientôt suivi d'un second, prévu en février, sur le volet blanchiment de fraude fiscale. L'enjeu est bien sûr celui de la condamnation à de la prison ferme, mais aussi des peines d'inéligibilité de 10 ans prononcées en première instance. Des peines qui pour l'heure ne sont pas définitives et n'empêchent pas Patrick Balkany de briguer un nouveau mandat, comme il l'a annoncé la semaine dernière depuis sa cellule à la prison de la Santé.
Ce procès pour fraude fiscale se terminera mercredi prochain. Ils sont détenus en Iran depuis le mois de juin, depuis 6 mois maintenant, et pour la première fois, Emmanuel Macron réclame publiquement leur libération. Dans un tweet hier soir, il juge intolérable la situation des deux chercheurs français Fariba Abdelka et Roland Marchal. Ils doivent être libérés sans délai. Je l'ai dit au président Rouhani et je le répète ici, voilà ce qu'écrit Emmanuel Macron.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. En Grande-Bretagne, Boris Johnson brandit le risque de paralysie du Brexit en cas de défaite aux législatives demain.
Oui, des élections anticipées pour lesquelles le Premier ministre conservateur n'aurait plus qu'une courte avance sur l'opposition travailliste. Derniers affrontements électoraux donc, derniers arguments des uns et des autres. Et le Brexit, finalement, n'est pas le seul sujet de campagne. Les questions économiques et les promesses sont nombreuses, Louise Baudet.
It's time for real change.
Le vrai changement après 10 ans d'austérité. Promesse phare du travailliste Jeremy Corbyn.
Nous voulons déclencher un choc d'investissement record pour reconstruire nos écoles, nos hôpitaux et les logements dont nous avons tant besoin.
Mais le conservateur Boris Johnson a lui aussi beaucoup promis.
Nous promettons 50 000 infirmières de plus et 50 millions pour les salaires des chirurgiens.
Pas de quoi convaincre Steve Hedley, syndicaliste du rail fidèle au Parti travailliste, même s'il est aussi un Brexiteur de la première heure.
Pour moi, il n'y a pas de choix parfait dans cette élection, mais on a deux premiers ministres possibles, et l'un d'eux est Boris Johnson, un absolu crétin de droite, vraiment.
Dans le Nord, les Midlands ou le Pays de Galles, Boris Johnson séduit pourtant une working class paupérisée, largement pro-Brexit. Mais la bascule de cet électorat n'est peut-être pas durable, explique Matt Bevington, chercheur au King's College de Londres.
Pour l'instant, ces électeurs veulent le Brexit, mais s'ils l'obtiennent, alors ils se préoccuperont à nouveau de la santé ou de l'éducation.
Vote populaire tangent et stratégique pour chacun des deux camps.
C'était Louise Baudet pour France Culture à 24 heures des législatives anticipées. Jeudi de vote en perspective aussi en Algérie. Et à la veille de la présidentielle, de nombreux Algériens défileront encore aujourd'hui contre ce scrutin perçu comme un moyen pour le régime de se régénérer. Hier soir, on apprenait qu'un défenseur des droits humains avait été condamné en Algérie à 1 an de prison ferme pour outrage envers les autorités. Des accusations ridicules. Voici la réaction de Donald Trump après l'avancée de la procédure de destitution qui le vise. Les démocrates retiennent 2 chefs d'accusation à son encontre, entrave à la bonne marche du Congrès et abus de pouvoir. Le président américain est accusé d'avoir poussé l'Ukraine à enquêter sur son rival démocrate Joe Biden. La nouvelle patronne de la Commission européenne dévoilera aujourd'hui son pacte vert pour l'Europe, un vaste plan d'action pour lutter contre le dérèglement climatique tout en créant de l'emploi. Voilà ce que promet Ursula von der Leyen. Elle entend notamment consacrer 1000 milliards d'euros d'ici 2030 pour mener l'Europe vers la neutralité carbone en 2050. Une mission ambitieuse qui nécessite toutefois des objectifs intermédiaires, selon Neil Makarov. Il est spécialiste des politiques européennes au sein du réseau Action Climat.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se focalise beaucoup sur un objectif de long terme, la neutralité en gaz à effet de serre en 2050, ce qui est une bonne chose, bien évidemment, mais cela requiert des actions de très court terme et notamment de relever nos objectifs climatiques pour 2030. Or, il semblerait que le calendrier de la présidente de la Commission européenne sur ce point-là est plutôt flottant. Il faudrait engager des transformations de court terme dans tous les secteurs. Par exemple, on pourrait imaginer une stratégie automobile qui viserait à bannir les voitures essence et diesel et à investir massivement dans les véhicules à faible émission. On pourrait aussi, pourquoi pas, réformer en profondeur la politique agricole commune afin que les Européens puissent bénéficier d'une alimentation de qualité. La Commission européenne parle de 1 000 milliards d'euros d'ici 2030. Or, on sait d'ores et déjà qu'il manque environ 200 milliards d'euros par an pour que l'Union européenne atteigne ses objectifs actuels. Donc, il va falloir lever énormément d'argent, qui peut être de l'argent frais, de l'argent nouveau, notamment avec des nouvelles taxes, comme une taxe sur le kérosène de l'aviation, ou par exemple la Banque Centrale Européenne qui pourrait aider à créer de l'argent pour la transition. Mais ça peut être aussi de la réorientation de l'argent qui est aujourd'hui investi dans les énergies fossiles et qui pourrait aller vers la transition écologique. Et là-dessus, la Commission européenne, il faut vraiment qu'elle travaille avec les États pour que les États puissent également réorienter leur budget public vers la transition écologique.
Des propos recueillis par Véronique Rebérotte. La planète à protéger face à un climat qui se dérègle. Pour preuve encore en Australie, la sécheresse est cette année très longue. Elle dure depuis septembre et elle provoque d'immenses incendies, souvent intenables, Valérie Crovin.
Des températures caniculaires alliées à des vents forts attisent les feux qui ont déjà ravagé plus de 2 millions d'hectares. C'est l'équivalent de deux fois la superficie de Sydney. Julie, une Française de 33 ans, suit l'évolution des incendies sur son téléphone portable grâce à une application.
Si moi je regarde sur cette application, Australian Fires, quand on clique sur les feux autour de Sydney, on voit leur état en direct. Par exemple, il y en a un qui est situé dans un endroit qui s'appelle les Blue Mountains, qui est un endroit très touristique à Sydney. Et le statut du feu, il y a écrit « out of control ».
Hors de contrôle. Dépassés par l'ampleur des incendies, les pompiers sont épuisés. La population australienne, elle, se mobilise pour faire des dons. Et une pétition circule pour annuler le célèbre feu d'artifice du Nouvel An tiré depuis l'opéra de Sydney.
Tout le monde en fait signe la pétition pour que le feu d'artifice soit annulé et que les fonds soient reversés pour les pompiers ou pour les animaux. Tout le monde a envie d'aider.
Des sites proposent également d'adopter pour Noël un koala, animal emblématique d'Australie. Pris au piège des flammes, plusieurs centaines d'entre eux auraient déjà péri.
En France métropolitaine, l'hiver s'installe au contraire et la pluie traverse toujours le pays entièrement concerné. Il fait ce matin 2 degrés à Strasbourg, 3 degrés à Lyon, 7 à Paris et Nantes, 11 degrés à Bayonne.
Merci Clara Lecoq-Réal, 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, nous retrouverons Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Il va être rejoint par l'économiste Antoine Bozio. C'est l'un des inspirateurs de la campagne d'Emmanuel Macron et aujourd'hui, celui-ci prend ses distances avec la politique d'Emmanuel Macron, notamment en matière de réforme des retraites. Vous l'entendrez dans 30 minutes. Vous retrouverez la séquence TTC. Hervé Gardette parlera de la Terre, laquelle est ronde comme un donut, dit-il. Mathilde Serrel, elle, évoquera le marché de l'art et Aurélien Bélanger a testé les pistes cyclables. Et puis dans un instant, le billet politique de Frédéric Seize, lequel évoquera les très faibles marges de manœuvre dont dispose le gouvernement pour sortir de cette crise sociale.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente La vie invisible d'Eurydice Gusmao. Eurydice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents à Rio de Janeiro et rêvent. L'une d'une carrière de pianiste, l'autre du grand amour. À cause de leur père, les deux sœurs vont devoir construire leur vie l'une sans l'autre. Séparées, elles prendront en main leur destin sans jamais renoncer à se retrouver. La vie invisible d'Eurydice Gusmao, le mélo tropical de Karima Inouz. Pris un certain regard au Festival de Cannes, aujourd'hui au cinéma. Un partenariat France Culture.
8h17. Le billet politique Frédéric Seize, même si la mobilisation des manifestants est en baisse, l'exécutif reste acculé alors que le Premier ministre doit annoncer ses arbitrages ce midi.
Oui, qu'est-ce qui pourrait sauver la réforme des retraites? C'est désormais dans ces termes-là que la question se pose pour le gouvernement, tant la situation semble inextricable à quelques heures des annonces d'Édouard Philippe. Inextricable non pas à cause du nombre de manifestants, autour du 500 000 hier, ce n'est pas négligeable, mais c'est loin des cortèges historiques. Inextricable car de nouvelles professions entrent dans la danse. Les policiers, par la voix de leur syndicat, annoncent se mettre en mouvement pour leur retraite. Les enseignants restent sceptiques trafic, malgré les assurances de Jean-Michel Blanquer, les agents de transport public demeurent fortement mobilisés. Et pour couronner le tout, une nouvelle journée de manifestation nationale est donc annoncée dans 6 jours, mardi prochain. Du côté de l'exécutif, la stratégie est la suivante. Emmanuel Macron reste en retrait, lui qui fut en première ligne face aux Gilets jaunes. Il laisse Édouard Philippe dévoiler le cadre général de la réforme et il pousse les ministres à rassurer chacun dans leur champ d'action, à l'image de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a posté cette vidéo hier soir.
Bonjour à toutes et à tous. Le système actuel de retraite de notre pays ne corrige pas les inégalités entre les femmes et les hommes. Pire, il les aggrave. Le gouvernement veut y mettre fin et veut résorber ces inégalités entre les femmes et les hommes au moment de la retraite.
Alors ces messages gouvernementaux ne visent évidemment pas à convaincre les opposants à la réforme, c'est peine perdue. Ils tentent plutôt de persuader ceux des Français qui sont encore hésitants, cette fraction de l'opinion publique qui ne sait pas trop quoi penser d'une réforme présentée ici comme progressiste, là comme régressive et dont personne n'a jusqu'ici pu lire ne serait-ce que la première ligne. Les seules hypothèses de débat datent du rapport Delevoye remis à l'été dernier. Dans ce flou, l'opposition et les syndicats se sont engouffrés, les uns pour publier des simulateurs de retraite aux prévisions alarmistes, les autres pour exhumer la loi Pacte, une loi votée il y a 6 mois qui favorise les complémentaires retraites. Il n'en faut pas plus pour soupçonner le gouvernement de préparer le terrain pour un système de capitalisation au lieu du système actuel de répartition. Argument repris à gauche, bien sûr, mais aussi à droite.
Spéciaux, mais en même temps, vous offrez 3 milliards d'euros au fonds de pension.
Naturellement, Olivier Marleix, député Les Républicains, hier à l'Assemblée. Face à ce mur de défiance, Édouard Philippe l'a reconnu hier à huis clos devant les députés, il n'y a pas de discours miracle pour faire cesser les manifestations. Certes, il peut choisir d'assouplir, d'étirer les périodes de transition, mais pas trop, car si la retraite, nouvelle formule, ne concerne que les plus jeunes, ce serait vécu comme une provocation par les syndicats étudiants. Par ailleurs, si le nouveau système est plus juste, comme le prétend le gouvernement, alors pourquoi priver plusieurs générations de cette justice? L'exécutif peut aussi annoncer des exceptions pour certaines catégories. Il a déjà promis de conserver les spécificités du régime des policiers et des militaires, mais il ne peut pas étendre beaucoup ces exceptions, sauf à tuer dans l'œuf l'idée de régime universel. Tout juste peut-il éviter de s'aliéner la CFDT, le seul syndicat majeur favorable au système par points. La CFDT très vigilante à ce que cette réforme ne comporte pas de durcissement sur la durée de cotisation ou de report de l'âge légal de départ. Bref, le gouvernement semble assiégé de toutes parts, sans guère d'issue, mis à part la reddition. Alors pourquoi cette réforme crée-t-elle une telle crispation? Il y a bien sûr de la colère sociale amoncelée depuis des années, mais au-delà, si l'on prend un peu de recul, peut-être que dans nos sociétés laïques et séculaires, la retraite a pris la place qu'occupe le paradis. Dans la religion, c'est cet instant de repos, de bonheur fondé sur le mérite accumulé au cours d'une vie et on ne touche pas, on ne réforme pas le paradis.
Merci beaucoup Frédéric Seize. Il est 8h21 sur France Culture.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Réforme-t-on le paradis, pour reprendre les termes de Frédéric Seize? Il expliquait que c'était une forme de paradis laïque, la retraite. Pour en parler, je suis en compagnie d'Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, et nous accueillons l'économiste Antoine Bouzio. Bonjour. Antoine Bouzio, vous êtes directeur de l'Institut des politiques publiques, maître de conférence à l'EHESS et professeur associé à l'École d'économie de Paris. Alors on vous présente, je dis on, mais Le Figaro, par exemple, du jour, comme l'un des inspirateurs de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, et malgré tout, vous êtes également le co-auteur d'une tribune, vous l'avez signée avec d'autres économistes proches d'Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry et Philippe Martin notamment, pour évoquer, comment dirais-je, votre distance, la distance que vous prenez par rapport à cette réforme et à la politique menée par Emmanuel Macron. Donc je vous propose de procéder en 2 points. Tout d'abord, nous dire quelle était votre réforme, celle que vous souhaitiez, et pourquoi cette réforme aujourd'hui, celle menée par Emmanuel Macron, si l'on tente d'en deviner les contours, ne vous satisfait pas?
Eh bien, bonjour. Donc, la raison pour laquelle j'avais depuis, ça fait plus d'une dizaine d'années, travaillé sur la question de comment on essaie de réformer notre système de retraite, réformer pour essayer d'en réparer plusieurs défauts. Le premier, c'est le fait qu'on a utilisé massivement la désindexation, c'est-à-dire l'indexation sur les prix plutôt que les salaires, pour faire baisser les droits à la retraite face aux évolutions démographiques. Et ça, ça nous rend un système qui est en fait très incertain. On n'est pas très sûr de
savoir. Alors là, il faut que vous m'expliquiez.
En fait, quand vous prenez les projections du Conseil d'orientation des retraites, savoir quelles vont être les dépenses de retraite sur le long terme, en fait, ces dépenses de retraite et donc les montants de retraite auxquels on peut s'attendre, ils sont très différents si la croissance va être faible, moyenne ou forte. Et plus la croissance est forte, plus nos retraites seront faibles par rapport à nos salaires. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout l'objectif d'un système de retraite. Un système de retraite, il vise à garantir un niveau de salaire qui soit en proportion, un niveau de retraite qui soit en proportion de nos salaires. Et ça, en fait, c'est dans le fonctionnement finalement actuel du système, parce qu'on a beaucoup utilisé cette facilité d'indexation sur les prix plutôt que sur les salaires.
Donc vous procédiez avec cette réforme vers un système plus juste, un système qui permettrait donc de conditionner le montant des retraites à une évolution des salaires, c'est cela ?
C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le projet que j'avais en tête, que j'ai essayé de défendre auprès de nombreux partis politiques, syndicats, était de dire, on a quand même un problème. Si on garde un masse constante, un niveau de retraite constante, un âge de départ en retraite constante, on peut faire mieux. On peut faire mieux pour avoir un système qui réduit un certain nombre d'inégalités qu'on ne fait pas, qu'on ne souhaite pas et qu'on crée de façon incidente sans vraiment les maîtriser. Et on ne veut pas un système où on se donne une incertitude finalement sur le montant de pension qu'on peut garantir aux salariés. D'une certaine façon, on a choisi après-guerre la répartition pour essayer de limiter les risques et limiter l'incertitude, donner plus de garanties finalement à ce que sont les droits à la retraite. Et aujourd'hui, pour essayer de compenser l'évolution démographique de la hausse d'espérance de vie, on s'est engagé dans une désindexation des droits qui va faire que si on a suffisamment de croissance, ces droits-là vont baisser plus fortement et qu'on arrivera à l'équilibre ou pas, mais sans donner finalement de garantie à l'ensemble des salariés sur qu'est-ce qu'on est sûr d'obtenir en termes de retraite.
Alors ça, donc, c'était la réforme telle que vous la préconisiez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous déplaît dans le projet d'Emmanuel Macron en matière de réforme des retraites ?
Aujourd'hui, en fait, ce qu'on entend du gouvernement sur le pourquoi de cette réforme, ce n'est pas l'égalité, ce n'est pas la réduction des inégalités de retraite, ce n'est pas plus de garanties, c'est on a un système qu'il faut réformer parce que sinon on n'est pas à l'équilibre, parce que sinon on a un problème budgétaire. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les données sur les questions de l'équilibre budgétaire, c'est pas vraiment l'équilibre budgétaire qui est en cause. On n'est pas dans cette situation-là. On peut avoir un centre d'ajustement, on peut discuter à quel rythme les faire. Mais si on est prêt à consacrer la somme actuelle qu'on consacre aux retraites, c'est-à-dire en gros 14% du PIB, on peut très bien maintenir l'équilibre de façon très pérenne dans le système. Donc ce n'est pas la raison principale.
Mais alors, le chiffre que j'évoquais tout à l'heure auprès d'Yves Verrier consistait à dire, il y a aujourd'hui le quart du déficit public qui est lié au paiement des retraites. C'est vrai ou c'est faux ?
Le quart, non, pas du tout. C'est-à-dire que si on
c'est une étude de l'Institut Molinari, institut très libéral, qui est aujourd'hui, par exemple, reproduite dans l'opinion.
Pas du tout. Donc, si vous regardez vraiment l'évolution des dépenses de retraite. En fait, ces évolutions de dépenses de retraite, elles vont être relativement stables. Il y a une petite hausse sur les prochaines années qui ensuite se restabilise, mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Ma propre inquiétude, c'est plutôt que dire que si vous regardez les horizons plus lointains, on peut se retrouver dans le système actuel avec des fortes baisses de taux de remplacement. En fait,
ça veut dire quoi, une baisse du taux de remplacement?
Le taux de remplacement, c'est la pension qui est rapportée à votre dernier salaire. Et si en fait les pensions, si la croissance est suffisamment forte et les pensions n'évoluent pas et que nos salaires continuent à évoluer, nos taux de remplacement vont baisser. Et là, c'est quelque chose, c'est une inquiétude.
Mais alors attendez, parce que c'est important, Antoine Bozio, on n'arrête pas de nous dire que c'est un système qui est déficitaire et que bien entendu les déficits sont dangereux. C'est faux d'après vous ?
Le système, il y a une petite part de déficit qui est faible par rapport à l'horizon de long terme et qu'on peut très bien gérer dans l'horizon de long terme, mais surtout, c'est qu'on ne sait pas l'équilibre de long terme. Vous ne savez pas le taux de croissance dans 20 ans. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Ce qu'on veut, c'est de se donner des règles où, quelle que soit l'évolution économique, on puisse garantir des retraites en proportion de nos salaires.
Les régimes spéciaux, c'est un problème pour vous ?
Pour moi, ce n'est pas un gros problème. Ce ne devait pas être l'objet majeur de cette réforme. L'objet majeur de cette réforme, c'est d'essayer de retrouver, en grande partie pour les salariés du privé et du public, des règles similaires, où on ne se dit pas, d'un côté, on a des fonctionnaires qui ont une règle avantageuse, mais que sur 75% de leur rémunération, puis il y a 25% les primes qui donnent très peu de droits à la retraite. On ne peut pas avoir le cas d'enseignants, finalement, où on les laisse dégrader leur niveau de rémunération parce qu'on bloque l'évolution du traitement. Pourquoi ? Parce que tout le poids des retraites de la fonction publique pèse sur le coût du traitement. Ça, ce sont des vrais problèmes qui ont des conséquences et qui devraient être en fait vus, et la réforme devrait être vue par exemple comme au contraire un moyen de sortir de cette gestion peu amène des carrières de la fonction
alors,
publique.
Pardonnez-moi Antoine Bozio, vous qui êtes économiste, je ne vois pas du tout le lien entre... La réforme que vous préconisez et celle qui est censée être préconisée par le gouvernement, je dis censée puisqu'on n'en connaît pas exactement les contours, on l'accuse par exemple de faire chuter les pensions pour un certain nombre de salariés et de fonctionnaires, alors même que vous dites finalement il n'y avait pas vraiment de problème de déficit dans le système des retraites, il y avait un problème plutôt d'anticipation avec un aléa qui s'agissait de faire baisser pour que il y ait moins d'incertitude sur le montant des retraites futures, je vous ai bien suivi ?
Oui, et donc la question de fond, c'est qu'en fait il y a une incertitude qui, je pense, est au sein de l'exécutif sur savoir quel est le vrai objectif de cette réforme. Si le vrai objectif de cette réforme, c'est la réduction de la dépense de retraite pour réduire les dépenses publiques, alors là, on est sur quelque chose de très différent. Et alors là, évidemment, on va faire... Si l'objectif, c'est...
Alors ça, ce n'est pas du Antoine Bozio.
Ben ça, pas du tout. C'est pas, à aucun moment, c'est ça, j'ai pu suggérer de faire cela.
Yves Verrier, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, sur ce que vient de dire Monsieur Bozio, c'est intéressant, mais je voudrais d'abord faire remarquer une chose sur la question de l'indexation des pensions demain sur les salaires ou sur l'inflation. Le gouvernement semble répondre et il assène en ce moment un peu partout. On a bien entendu, la valeur du point sera indexée sur les salaires. Mais il faut rentrer là aussi dans les détails. C'est la valeur d'achat du point qui augmentera avec le salaire. Donc votre point en rapport à votre salaire vous coûtera toujours le même prix, ni moins ni plus cher, en proportion. La valeur de service, nous dit-on, pourrait être elle aussi en fonction de l'évolution des salaires. Donc c'est pratiquement du coup nul, quoi, en quelque sorte. Mais par contre, pour ceux qui seront, une fois les points transformés en retraite, en pension, ça continuera d'être indexé sur l'inflation. C'est ce que j'ai lu dans le rapport du haut commissaire et c'est ce que j'ai cru comprendre à nouveau de la synthèse qu'il en a faite. Autrement dit, on n'a pas du tout répondu à ce que M. Bozio vient de dire sur comment faire pour garder un taux de remplacement au fil du temps de la pension sur ce qu'était votre salaire. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, si on ne raisonne qu'en termes de dépenses, parce qu'on nous dit 14 points de PIB, et avec ces 14 points de PIB, ce que représentent les prestations de retraite aujourd'hui, les 314 milliards d'euros à peu près annuels, on peut faire mieux du point de vue du taux de remplacement, c'est-à-dire garder ce taux de remplacement en fonction du salaire à l'avenir. Oui, mais comment ? Parce que c'est ça la question. Si on ne parle qu'en termes de dépenses, évidemment, on a vite un problème. Qui mettons à contribution dans ceux qui sont les bénéficiaires des retraites ? Et on doit parler aussi en termes de recettes. Et la question des recettes, elle est majeure sur cet équilibre. Et la question des recettes, c'est l'emploi. D'abord, résoudre le problème du chômage. Deux, la précarité, les emplois précaires, les temps partiels subis. Trois, les petits salaires. C'est souvent les femmes qui subissent ces difficultés et qui, le moment venu, se retrouvent en difficulté. Et quatre, Conseil d'orientation des retraites disait qu'1% d'augmentation de la cotisation, et ça, c'est comment on rééquilibre la richesse produite par l'économie en général et les entreprises en particulier, en termes de redistribution sur les salaires et cotisations sociales qui alimentent les recettes des régimes de retraite.
Alors, si on continue sur cette réforme des retraites et celle que vous préconisiez, Antoine Bozio, une réforme par points, autrement dit l'introduction de points retraite, est-ce que ça c'est un problème? Est-ce que ça introduit un aléa parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui inquiets en se disant qu'on ne connaît pas la valeur du point et que c'est une manière de diminuer le taux de remplacement lorsque ces gens-là seront à la retraite? Qu'en pensez-vous, vous qui êtes économiste?
Donc, dans la proposition que j'avais faite initialement, on accumulait des droits et que ces droits étaient inscrits, enregistrés en euros. Pourquoi ? Parce que au moment de la conversion, pour éviter qu'on puisse se poser un risque que la valeur du point puisse être manipulée, on se disait, on peut donner une règle où, vous voyez, l'accumulation des droits en euros et progressivement on voit sur notre contre-retraite, notre retraite se manifester progressivement en euros et apparaître au fil de la carrière. Donc, le fait d'utiliser des points, en soi, c'est pas forcément un problème. À l'Agir Carco, dans les régimes complémentaires, les partenaires sociaux gèrent un système en points, ils sont capables de le piloter. Donc, on peut très bien faire un système en points. La raison pour laquelle, pour le coup, le gouvernement a choisi plutôt d'utiliser des points, c'est de se dire, les partenaires sociaux connaissent, les Français, au moins dans le secteur privé, connaissent parce qu'ils ont tous une retraite complémentaire, donc ça va être plus facile d'en faire la pédagogie. Mais pour beaucoup, quand même, se dire le point, cette valeur du point qui va la fixer, comment elle va évoluer, ça c'est une vraie interrogation. Alors là, j'entends bien le gouvernement dire oui, mais on est bien conscient, il y aura bien une règle. Et je pense que c'est très très important. Le fait d'avoir une règle sur la valeur du point, ça veut dire qu'on ne va pas s'autoriser à la bouger chaque année.
Mais Antoine Bosio, pourquoi est-ce si peu transparent? Puisque en économie, on n'arrête pas de nous expliquer que finalement, l'un des problèmes majeurs, c'est de réduire l'incertitude. Les agents économiques détestent le risque et l'incertitude. Or là, on a un système qui est, c'est pas lié à ce gouvernement-là uniquement, on a un système qui est complètement opaque, qui est très difficile à décrypter. Pourquoi?
Ça, c'est le produit de notre histoire. On a créé des couches différentes de notre système de retraite avec des règles différentes et sans jamais avoir vraiment essayé ou réussi à essayer de leur donner une certaine forme de cohérence. C'est pour ça que, au départ, dans le projet que j'ai essayé de défendre, c'était de se dire que si maintenant, parce qu'on a fait quand même un certain nombre de réformes dans le passé, on est arrivé à une forme de stabilisation de l'équilibre de notre système, c'est le bon moment d'essayer de résoudre des problèmes de fond, parce que justement, on ne va pas essayer de faire une réforme qui réduit les droits en même temps qu'on essaie de faire une réforme plus structurelle pour en résoudre des problèmes.
Alors, parmi vos propositions, donc on a bien vu qu'il fallait clarifier la valeur des points, c'est évident. La seconde proposition de cette tribune que vous signez avec d'autres économistes qui ont été très présents dans la campagne d'Emmanuel Macron et marquent leur distance aujourd'hui par rapport à cette réforme des retraites, c'est de renoncer à l'âge pivot. Qu'est-ce que ça veut dire, Antoine Bosio?
Dans un système à point où vous n'avez pas forcément besoin d'un âge, vous avez pas besoin d'un âge pivot.
Puisqu'en fait, vous pouvez liquider votre retraite.
Vous accumulez, plus vous travaillez, plus vous avez de points. Et si vous, à chaque âge, vous pouvez liquider cette retraite. Si vous partez plus tard, votre retraite sera plus importante. Mais il n'y a pas besoin d'en fixer un point de référence, une norme. Alors après, je suis pas opposé à l'idée qu'on donne de l'information, un point de référence aux salariés pour leur dire, est-ce que vous avez atteint un bon niveau de retraite? Est-ce que vous avez atteint, 75%, 70% de votre dernier salaire? Fixer une référence pour éviter que on puisse se laisser collectivement à partir trop tôt avec des trop faibles retraites. Mais par contre, l'idée de dire, regardez, on a un nouvel âge de la retraite, c'est 64 pour tout le monde. Avant, c'est pénalité, après, c'est bonus. C'est essayer de faire en sorte de cristalliser un nouvel âge de la retraite et dire qu'en fait l'âge de la retraite a augmenté, alors qu'en réalité rien n'a vraiment changé de ce côté-là.
Yves Verrier, opine du chef. Une gouvernance transparente, enfin, c'est l'autre point que vous abordez toujours dans cette tribune. Est-ce que cette règle des 14% du PIB, autrement dit, pour simplifier, 14% de la richesse nationale va au paiement des retraites, est-ce que ça c'est une règle d'airain?
Non, c'est pas une règle des reins, c'était quelque
Alors
chose
qui doit être... Alors pourquoi la fixer ?
Mais moi je suis pas pour qu'on la fixe, je suis pour qu'on parte du point où on est aujourd'hui. On part d'aujourd'hui de 14%, donc c'est la bonne façon de se dire faisons une réforme à budget constant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train en même temps de changer, de dire ni qu'on baisse ni qu'on augmente, on essaye de à budget constant d'essayer de se redonner des règles. Et après, dans la gouvernance, on doit se dire, à l'horizon des décennies qui viennent, est-ce qu'on souhaite augmenter ? À quel rythme ? Comment ? Ou pas ? Et ça, ça doit être une décision dont on doit retrouver le caractère, finalement, démocratique. C'est pas une décision qui vient technocratique, c'est un vrai choix politique. Est-ce qu'on souhaite plus pour les retraites ou plus pour autre chose ? Pour financer la transition écologique, pour réduire, pour augmenter nos financements dans l'éducation, la santé. Ce sont des vrais choix politiques, mais au moins qu'on les retrouve. Et ce qui, je trouve, un petit peu dramatique dans le système actuel, c'est qu'on a perdu ce point-là comme un des paramètres centraux de notre débat public sur les retraites.
Yves Verrier, alors vous représentez ici Force ouvrière, mais il y avait beaucoup de doutes chez les syndicalistes en matière donc d'orthodoxie budgétaire sur ces 14% du PIB qui iraient au paiement des retraites. Est-ce que vous, par exemple, c'est un pourcentage qui devrait être abandonné ou amendé ?
Encore une fois, la question, on a l'impression que les gouvernements ne savent plus que gérer la dépense, ce qu'ils appellent la dépense publique. À chaque fois, la question est celle de l'économie. Est-ce que on est encore en situation d'être capable de créer de l'emploi ? Je me souviens que pendant la présidentielle, il y avait un débat, nous n'étions pas favorables, nous FO, à l'idée d'un revenu universel qui pallierait les défauts de l'économie en matière de création d'emplois pour tous suffisamment rémunérateurs. Et c'est ces questions-là qui doivent être également posées. Encore une fois, effectivement, il y a un choix démocratique, politique, de ce que l'on consacre à la retraite, mais si on n'est déjà pas capable de faire en sorte que tout le monde ait un emploi à temps plein, pérenne, de l'entrée dans la vie active jusqu'au moment de partir à l'âge de la retraite, c'est illusoire de vouloir faire travailler plus longtemps ceux qui ont encore du boulot au moment de l'âge de départ en retraite. Et le grand défaut, d'ailleurs, de l'âge pivot, ça n'est pas tellement qu'on va faire travailler plus longtemps les salariés, c'est que ceux qui ne pourront pas faire autrement parce que, y compris pour des raisons de santé, partiront à 62 ans, eh bien, ils ont une pension qui sera amputée de leurs droits, malgré qu'ils auront leur capital de points et qu'ils étaient en situation de pouvoir faire valoir ce capital de points en pension intégralement. On va les amputer de 10... Bon, et puisqu'on fait beaucoup de comparaisons, notamment avec les pays nordiques, et ce qu'on peut consacrer aux retraites ou non, regardez sur l'OCDE, 14 points de PIB en France sur les retraites, c'est 3 points de plus que les pays nordiques. Les pays nordiques, c'est 3 points de plus en matière de dépenses publiques consacrées à l'invalidité.
Dernier point important, Antoine Bozio, vous qui êtes économiste et faites cette tribune pour dire que la méthode du gouvernement n'est pas forcément la bonne en matière de réforme des retraites, vous souhaitez proposer une méthode et une stratégie de transition pour la fonction publique. Là aussi, c'est important. En quoi celle-ci pourrait consister ? Est-ce que là aussi, il y a un lien avec la génération pour laquelle il y aura un basculement dans le nouveau système de retraite ?
Donc dans la fonction publique, on a une situation où on a à peu près 21/4 de la rémunération des fonctionnaires en moyenne qui est sous forme de primes, qui donne très peu de droits à la retraite. Et on a les 3/4 qui sont sous forme de traitements, qui donnent des droits à la retraite plus élevés sur le traitement que dans le secteur privé. Mais en moyenne, si vous prenez la moyenne, primes, tout ça, les fonctionnaires ne sont pas avantagés, puisque ils ont cette part de rémunération sous forme de primes qui donne peu de droits à la retraite. Mais donc là, il y a quand même un problème, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce que fait l'État ? Du coup, il dit, je vais bloquer la valeur du traitement, le point d'indice, puis je vais augmenter le nombre de primes. Mais ce faisant, pour essayer de finalement limiter la hausse des droits à la retraite, il réduit, il dévalorise les carrières des fonctionnaires qui sont largement rémunérés sous forme de traitement. Qui sont-ils ? Ce sont les enseignants, principalement. Donc, les rémunérations des enseignants, depuis une quinzaine d'années, se sont dégradées par rapport non seulement aux autres fonctionnaires, mais aussi au secteur privé. Pourquoi ? Bah parce que ce mécanisme-là d'essayer d'équilibrer le système de retraite dans la fonction publique est problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut arriver à refaire converger, c'est-à-dire intégrer les primes dans les droits à la retraite et revaloriser les traitements des enseignants.
Merci Antoine Bozio, vous qui êtes économiste et qui avez co-signé cette tribune pour dire que la réforme des retraites mériterait d'être amendée. Et merci à vous, Yves Verrier de Force Ouvrière, de nous avoir exposé votre point de vue sur cette réforme des retraites et les différents mouvements sociaux qu'elle suscite. À 8h42 sur France Culture, il n'y a pas que le prix des retraites, il y a aussi les prix littéraires qui nous importent, et notamment le prix France Culture Roman des étudiants, qui est également accordé avec Télérama et le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes en ligne avec la lauréate, et la lauréate, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, c'est Emma Becker. Bonjour Emma Becker.
Bonjour.
Vous avez obtenu ce prix pour La Maison, votre roman pour lequel nous vous avions reçu, et la seconde, enfin, ça n'est pas une lauréate, mais celle qui est arrivée seconde, je le précise, est Monica Sabolo. Emma Becker, une réaction à ce prix que France Culture, Télérama et le ministère de l'Enseignement supérieur vous accordent?
Ah bah écoutez, je suis extatique, j'ai appris ça, j'apprends ça, je suis vraiment, je suis absolument ravie, les mots me manquent, mais c'était vraiment une superbe aventure, quoi.
Alors si on essaye de résumer en quelques mots, La Maison, c'est ce récit que vous faites de votre séjour pendant 2 ans au sein d'une maison close à Berlin, une œuvre littéraire, ça n'est pas un document et ça n'est pour autant pas une fiction, Emma Becker.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est la fictionnalisation d'une expérience que j'ai vécue pendant 2 ans et demi, effectivement, ouais. C'est le récit de ce, enfin, c'est le roman de cet endroit-là qui n'existe plus et que je voulais conserver le plus longtemps possible.
Ce prix France Culture Roman des étudiants, il vous a permis de rencontrer des étudiants un peu partout en France. Qu'avez-vous retiré de ces différentes rencontres, Emma Becker?
Mais moi, j'ai trouvé que c'était des rencontres très riches, enfin infiniment plus riches que ce que j'ai l'occasion de dire habituellement sur mon livre. Ce sont des échanges, voilà, qui durent à peu près une heure et demie. Et je trouve que les étudiants ont été un public vraiment génial, très attentif, très curieux, qui avait plein de questions intelligentes. Et ça m'a permis aussi de voir mon livre sous des angles différents, beaucoup plus littéraires.
Par exemple.
C'était une expérience fascinante. Bah, justement, fascinante. Comme expérience de se retrouver de ce côté-là de l'analyse, c'est-à-dire ça m'a rappelé mes études de lettres quand j'étudiais moi-même les auteurs et voilà, de voir son texte analysé comme ça, c'est magnifique.
C'est un texte qui a également fait polémique puisqu'il est question d'une maison close. Alors on vous a accusé notamment d'avoir une vision extrêmement romantique du métier de prostituée, Emma Becker.
Oui, mais parce que je pense qu'il est difficile de nos jours de comprendre qu'une expérience, c'est une expérience, et que cette expérience n'a pas vocation d'être finalement un porte-parole de quoi que ce soit. Ça reste mon expérience, mon roman, et je ne prêche pour absolument aucune paroisse. Je ne fais que rapporter ce qui m'est arrivé.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas prosélyte quand vous dites que vous ne prêchez pour aucune paroisse. Vous considérez qu'il ne faut pas et évidemment encourager les individus à épouser cette carrière, mais pour autant, on vous a accusé de ne pas pointer à quel point ce métier peut être glauque, dégradant, etc.
Oui, mais je crois que les étudiants ont très bien compris ce que je voulais dire, à savoir que je fais pas l'apologie de la prostitution, je raconte simplement un moment de prostitution dans un endroit précis, dans un pays où c'est légal, et le fait que je rapporte mon expérience n'est absolument pas du prosélytisme. Je ne fais qu'exprimer quelque chose qui m'est arrivé, et j'aimerais que le malentendu soit dissipé. J'ai trouvé que les étudiants comprenaient justement très bien la part de subjectivité et d'expérience et son unicité, quoi.
Merci et encore bravo, Emma Becker, puisque vous avez obtenu le prix Télérama France Culture pour ce roman des étudiants, La Maison. 8h46 sur France Culture. Dans quelques instants, mes camarades font s'élancer. Hervé Gardette, Mathilde Cérel et Aurélien Bélanger. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hervé, de quoi allez-vous nous parler?
La Terre est ronde comme un donut.
Mathilde Cérel.
Le monde de l'art s'est-il fait bananer?
Et enfin, Aurélien Bélanger.
J'ai vu des CRS en plein Paris.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « Comment garder les idées claires ?» Les infox circulent encore plus vite que les infos. Pour lutter contre la désinformation et comprendre ses modes de propagation, scientifiques, philosophes, historiens, sociologues s'expriment sur la recherche de la vérité. Mardi 17 décembre, France Culture avec France Info anime 4 tables rondes et un atelier dès 10h dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en partenariat avec la revue ADN et le soutien de la chancellerie des universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr, entrée gratuite, réservation sur maisondelaradio.fr.
8h47, la transition d'Hervé Gardet. Notre façon de regarder le monde conditionne notre façon de l'habiter, c'est ce que nous enseigne le philosophe Bruno Latour. Hervé, vous avez assisté à l'une de ses conférences.
La Terre n'est pas plate. La pratique du cyclotourisme sur les pentes escarpées de la chaîne des Puys a suffi à me ranger dans le camp des non-platistes, étant entendu que le camp d'en face, ceux qui croient que la Terre est plate, n'est probablement qu'une invention dont la finalité m'échappe. Je n'ai en tout cas jamais croisé d'individus appartenant à cette espèce, alors que leurs contradicteurs prospèrent sur les réseaux sociaux. Pour autant, la Terre est-elle aussi ronde qu'on veut bien le dire? Après avoir assisté il y a une quinzaine de jours à une conférence de Bruno Latour au Théâtre des Amandiers, à Nanterre, j'en viens à douter de cette réalité pourtant scientifiquement établie. Alors à ce niveau de la chronique, deux précisions s'imposent. D'abord, qui est Bruno Latour? C'est un philosophe, un des grands penseurs contemporains de l'écologie. Il s'intéresse notamment à notre façon d'habiter le monde et de cohabiter avec les autres formes du vivant. Évidemment, il ne remet pas en cause la forme sphérique de notre planète, mais il invite à repenser la représentation que nous en donnons pour mieux nous situer dans ce moment fondamental pour les sociétés humaines qu'est l'Anthropocène. Or, pour comprendre, il faut partir du constat suivant. La façon de représenter notre planète ne dépend pas seulement de l'état de nos connaissances, elle raconte aussi la façon que nous avons de nous projeter dans le monde et de l'occuper. Ainsi, la Terre s'est d'autant mieux prêtée à l'exploration que nous avons compris qu'elle était ronde. Étape suivante. On peut la dater précisément, celle-là, le 24 décembre 1968. La mission Apollo 8 réalise un cliché devenu célèbre, le premier lever de Terre. On y voit, depuis l'espace, la Terre se lever à la manière du Soleil. Et j'apprends sur Wikipédia que le magazine Life a classé ce cliché parmi les 100 photographies qui ont changé le monde. Elle a en tout cas, cette photographie, changé notre perception du monde. La Terre y apparaît comme un objet lointain, une planète d'autant plus belle et précieuse qu'elle paraît vulnérable. On pourrait presque la tenir dans sa main. La conquête spatiale nous permet de l'observer et de l'envisager de l'extérieur. Or, nous dit Bruno Latour, c'est une erreur de considérer que nous sommes à l'extérieur de la Terre ou même simplement à sa surface. Nous sommes à l'intérieur, inside, pour reprendre le titre de sa conférence. Nous y sommes même confinés, on ne peut pas s'en échapper, nous vivons dans les plis de cette planète. Et nous y vivons mal, confrontés au changement climatique. Nous choisissons soit de nous replier sur le local, soit de nous projeter dans le global, soit de rester hors sol, c'est-à-dire dans le déni. Or, aucune de ces façons d'habiter la Terre n'est vraiment satisfaisante. Alors l'intuition géniale de Bruno Latour, c'est d'avoir compris que c'est la façon dont nous représentons la Terre qui conditionne la façon dont nous l'habitons et dont nous nous comportons avec elle. Pour mieux l'habiter, il faut donc changer de point de vue, passer d'une vision géographique à une vision géochimique, se libérer de notre façon de cartographier la Terre pour en inventer de nouvelles qui rendent davantage compte de notre place dans le vivant. Alors la chronique radiophonique a ses limites, impossible de restituer à l'oral la complexité et la poésie des représentations très élaborées projetées sur la scène des Amandiers, mais vous pouvez vous faire une petite idée de ces nouvelles cartographies via le lien vidéo sur la page de notre site. J'ai néanmoins tenté de trouver, moi aussi, une nouvelle forme à la Terre, suivant le conseil de Bruno Latour, de renverser nos représentations. Alors est-ce parce qu'à ce moment de la conférence, il n'était pas loin de 19h30, j'ai ressenti un petit creux. Il m'est en tout cas venu l'image d'un donut, le beignet représentant la planète Terre, le trou au milieu figurant l'univers. Ma conviction est désormais faite, Guillaume, la Terre est ronde comme un donut.
Merci Hervé Gardet. Mathilde Cérel, on va passer du donut à la banane, car dans votre théorie culturelle, il y a une banane.
Et oui, après l'urinoir de Marcel Duchamp, la pomme de Yoko Ono croquée par John Lennon, ou encore l'aspirateur de Jeff Koons, voici la banane de Maurizio Cattelan. Scotchée sur le stand d'une galerie dans une foire d'art contemporain et vendue plus de 120 000 dollars, elle est venue relancer ce petit jeu théorique qui dure depuis au moins un siècle. Est-ce que c'est de l'art ? Le film s'est déroulé comme prévu et la star s'appelle tout simplement The Comedian, nom habilement choisi pour cette installation par l'artiste italien. Sous ses airs d'attrape-scandale, ma théorie c'est que cette banane est l'œuvre pop ultime et que nous en sommes les scénaristes. Glissée comme un gag, une peau de banane, au stand de la galerie Perrotin, à la foire Art Basel de Miami, The Comedian est devenue une attraction en toute cohérence avec son contexte. Des forêts de portables et d'appareils se sont levées pour la prendre en photo, des poses débiles se sont multipliées devant cette joconde fruitière, des détournements en cascade ont inondé les réseaux et des récupérations commerciales pour Carrefour ou Burger King sont venues compléter la chaîne. Bref, en quelques jours, la banane scotchée a fait tout le trajet dérivatif d'une icône pop. Un artiste l'a même mangé en guise de performance. Voilà pour l'objet. Quant au discours ou l'exégèse, il s'est nourri des kilos de commentaires et d'analyses, de défenses ou d'attaques qui n'ont cessé d'écrire le film dans lequel The Comedian s'est proposé de jouer. Il a même un titre, Le monde de l'art est devenu fou. Avec cette formule savamment inflammable du New York Times, on pourrait penser que cette banane est venue une énième fois tendre un miroir au délire spéculatif d'un marché totalement déconnecté. Quoi de mieux qu'un bien dont toute la planète connaît à peu près le prix pour montrer l'aberration d'un système où il peut être vendu plus de 120 000 dollars à 3 collectionneurs et 2 musées. Et qu'ont-ils acheté d'ailleurs ? Eh bien un protocole, c'est-à-dire un mode d'emploi et un certificat pour avoir le droit de scotcher leur banane et de la remplacer si elle pourrit. Mais l'explication est un peu courte. En réalité, les œuvres de Maurizio Cattelan sont toujours multivoques et livrent leur signification par rebond. Elles sont comme des ondes de choc qui ne se limitent pas à leur première interprétation et s'écrivent dans le temps, comme me le rappelait Jean-Max Collard du Centre Pompidou. La Nona Ora de Maurizio Cattelan, sculpture qui représente le pape écrasé par une météorite, a ainsi été successivement un gag, une provocation à l'égard de l'Église, et censurée comme telle, puis une ode à la foi qui montre comment elle tente de résister malgré l'impact des découvertes de la science. Quel message continuera d'écrire cette banane ? C'est encore trop tôt pour le dire, mais son prix choisi nous livre quelques indices. Sans lui, ça aurait été un produit de consommation courante, transformé en objet d'art, prolongeant la dimension réflexive d'une autre banane, celle d'Andy Warhol. Et si elle avait seulement dû être le symbole de la surenchère absurde du marché, la banane aurait été affichée 1 million de dollars. Or, ce protocole, à 120 000 dollars, reste aussi aberrant qu'accessible. À mon sens, une fois acheté, The Comedian devient le jouet ultime d'un empire maso qui n'aime rien tant que se raconter sa propre chute.
Merci beaucoup Mathilde Serrel, ça vous rend un peu jaloux hein, Aurélien Bélanger, cette histoire de banane.
Je me suis demandé si j'allais l'acheter et en même temps je me suis dit que ça serait pénible de la changer toutes les semaines.
Bah oui, allez, on va vous demander une chronique pour le coup. Votre conclusion, je vous prie Aurélien Bélanger.
Les deux seuls sujets qui m'importent, les pistes cyclables et la révolution, ont presque fusionné et c'est très inquiétant. Je pratique assidûment le vélo, non pas seulement comme un moyen de déplacement ou comme un sport, mais comme on ferait tourner les roues d'une machine de Babbage vouée à l'apprentissage profond, comme on lui ferait chercher un théorème d'optimisation pour concilier deux exigences contradictoires, la sauvegarde de ma vie et la protection de mes jantes, des jantes si onéreuses et à la merci du moindre bec de trottoir un peu trop aiguisé, si onéreuses qu'elle m'oblige souvent, quand j'arrive épuisé dans une ville inconnue, à renoncer à emprunter les pistes cyclables, équipement urbain plébiscité, mais rarement satisfaisant, surtout si on dépasse les 30 km/h, qu'on doit serpenter entre les feux rouges et les racines d'arbres, déchiffrer leurs tracés complexes et éviter leur brusque changement de niveau, fatal à mes roues Mavic à plus de 200 euros pièce, et c'est à peine le milieu de gamme. J'ai ainsi encore raté l'autre jour mon arrivée à Chartres par la route de l'aérodrome, ne réussissant pas à négocier à temps mon insertion sur une piste cyclable, péniblement séparée du reste de la chaussée, la chose paraît incroyable par une petite haie de buissons épineux. Arrive toujours aussi ce moment absurde où le cycliste se fait insulter par un automobiliste qui non seulement supporte l'essentiel du coût de la construction des pistes cyclables, en perdant au passage l'équivalent d'une voie, mais se retrouve aussi in fine à devoir éviter un arrogant cycliste parisien qui ne les juge juge pas digne de ses roues valantes à elle, deux, le tiers d'un SMIC. Les choses étaient résolument mal engagées sur les routes hivernales du pays, des gilets jaunes, mais des solutions existent et je les ai découvertes en déroulant sur Twitter l'excellent suite d'un certain Rivo Vasta qui se livrait sur le récent réaménagement de la place de la Bastille et plus précisément sur l'interface cycliste entre la nouvelle place et le faubourg Saint-Antoine à une passionnante étude de cas. Photos des contours chanfreinés de la bande cyclable ou schéma d'intervention des pompiers à l'appui, le jeune urbaniste parvenait à rendre le paysage tumultueux du faubourg à nouveau intelligible, à nous convaincre que rouler ici était aussi doux que de faire coulisser du doigt les tweets enchâssés de son suide. Et l'espace d'un instant, j'envisageais de m'installer pendant 10 ans à Reims, Épernay ou Chalon en Champagne, juste pour avoir un jour le plaisir d'entrer à vélo dans Paris par cette piste cyclable révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est bien le nom qui convient pour un équipement urbain destiné à modifier l'approche de l'un des principaux points chauds, de l'un des principaux points chauds, difficile à dire, de la carte de France. On a beau vendre ici des meubles et des chaussures, j'ai beau m'y rendre à l'occasion pour y enregistrer des chroniques télé en saluant au passage ma sœur qui travaille au Etam, cet endroit de France n'a jamais été complètement rétrocédé depuis 1789 à la paix civile et mon tweetos lui-même, malgré toute son évidente bonne volonté, ne manquait pas de mentionner en passant qu'avec 16,80 m en sortie de place, le point d'interconnexion entre le faubourg et la place demeurait critique. Montrer qu'avec un peu d'intelligence et beaucoup de bon sens, on pouvait faire passer un peuple entier dans l'intervalle, c'était précisément, je crois, l'objet de son intervention. Ni la tyrannie automobile, ni l'anarchie cycliste n'auraient ici le dernier mot. Si la démocratie existait encore quelque part en Europe, c'était précisément ici, et j'aurais été tenté de le suivre si je ne m'étais pas heurté dès le lendemain à un dysfonctionnement majeur de cette belle utopie cyclable. Le second point chaud de l'histoire de France, on le sait depuis la mort de Louis XVI, depuis le 6 février 34 ou le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'interconnexion entre la rue de Rivoli et la Concorde. Si la foule passe, ici, dans certaines conditions particulières, alors la tête du roi, le gouvernement ou la République tombe. L'endroit, au débouché de l'aménagement cycliste le plus marquant des années Hidalgo, la piste cyclable à double sens de la rue de Rivoli, fait l'objet de travaux depuis quelques jours. On finit de coudre cette voie express de cycliste à la place de la Concorde, encore un jour ou deux, et plus de terre-plein à escalader, le Paris cyclable aurait été achevé. Mais on a assisté à la place à l'installation d'imposantes grilles anti-émeutes qui sont soudain venues rappeler à l'usager distrait que le paradis des cyclistes n'était pas exactement le même que celui des travailleurs.
Oui, de toute façon, ça n'est pas encore idéal, ces pistes cyclables, pour circuler en vélo. Hervé Gardet, je crois que vous avez fait beaucoup de vélo.
Mais... Ah bah moi qui viens de l'Est parisien et qui suis passé et par Bastille et par la Concorde, je souscris à ce que vient de dire Aurélien Bélanger.
Voilà, et puis on a encore la difficulté des quais. Pénible encore d'arriver jusqu'ici. Voilà, en tout cas, on continuera de pédaler chaque jour. Merci à l'équipe des matins, Pauline Chanu, Elodie Piel, Maïwenn Guizhou, Léa Capuano, Louison Caroué, David Jacoboviez, Martin Descloseau, François-Charles Demergue et Jordan Fuentes. Il est 9h sur France Culture.